20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Il sera question de Beethoven et du genre de la variation avec notre invité ce soir, le pianiste Cédric Tiberghien. Quelques accents de jazz juste avant en compagnie de la chanteuse Yoon Sun Na qui nous dira quelques mots sur sa nouvelle tournée de concerts qui débute vendredi à Aix au Grand Théâtre de Provence. Mais pour commencer, un coup d'œil sur les autres événements de l'actualité musicale. La deuxième édition du concours international de lutherie dédié au violon a connu un vif succès public ce week-end à la Philharmonie de Paris. À l'issue de la finale qui s'est tenue dimanche, le premier prix dans la catégorie talent de demain a été attribué à Eva Schulz, représentante de l'école suisse de lutherie de Brienz. À noter que le deuxième prix a été attribué à l'école de Mirecourt, représentée par Églantine Mainvielle. Et dans la catégorie talent d'aujourd'hui, ont été couronné d'un premier prix ex aequo le Polonais Piotr Pielaszek et le Français Wiater Roy. A noter que le prix spécial du public a été attribué au Français Nicolas Gilles. On en parlait la semaine dernière en compagnie de quelques-uns de ses membres. La troupe de l'Opéra de Paris est amenée à se développer. Une deuxième promotion a déjà été sélectionnée et rejoindra l'équipe actuelle dès la saison prochaine. Tandis que les inscriptions aux auditions pour la saison 2025-2026 viennent d'ouvrir. Vous trouverez tous les détails ainsi que le formulaire de candidature sur le site de l'Opéra de Paris. Et vous avez jusqu'au 3 mars prochain. C'est l'une des grandes figures du jazz dont l'univers musical flirte également avec la pop et la musique folk. La chanteuse sud-coréenne Yoon Sun Na entame une nouvelle tournée de concerts qui débutera ce vendredi à Aix au Grand Théâtre de Provence et s'achèvera le 26 février à la Cigale. Alors c'est avec le programme de son album Walking Walk qu'elle débutera cette tournée vendredi à Aix, le premier album dont elle a signé les paroles et les musiques qui marquait une étape importante dans sa carrière. Comme elle me l'a confié.
Oui, exactement. Je me suis jamais considérée comme une compositrice ou parolière, mais en fait, j'ai préparé cet album pendant la période de Covid. Justement, j'étais toute seule, très loin de mes musiciens. Ça m'a permis de me concentrer sur ce que je voulais faire depuis longtemps. Donc après, j'ai appris des logiciels de musique sur Internet. J'ai presque fait en autodidacte. Et c'est un album qui m'a permis de découvrir moi-même et qui m'a permis de réconcilier avec moi-même et qui m'a permis de m'aimer, en fait, de m'apprécier, de me pardonner aussi. Donc c'est un album très, très important pour moi.
Et visiblement très intime. Comment est-ce que cela se passe lorsqu'on partage des chansons, des musiques si intimes qui ont jailli de vous-même avec le public, puisque ce programme, vous l'avez déjà beaucoup donné en concert?
En fait, c'est un album comme si j'avais préparé un plat juste avec les ingrédients que j'avais dans mon frigo, par exemple, en mettant tout mon amour, toute ma passion. Et quand je me rappelle le premier concert que j'ai fait avec le groupe de Waking World, j'avais l'impression qu'ils appréciaient mon plat. Donc c'était très très émouvant.
Et ces chansons, elles ont beaucoup évolué sur scène. Elles se sont transformées au fur et à mesure des concerts, puisqu'on ne chante pas, j'imagine, de la même façon sur scène. Il y a une part d'improvisation que dans un studio d'enregistrement.
Oui. Je pense que c'est la beauté du jazz, en fait. Chaque soir, c'est différent et l'énergie qui circule entre les musiciens et entre les musiciens et le public est différente chaque soir. Et c'est très, inspirant. Donc, les répertoires sont évolués avec le temps et des fois, il y a des morceaux qui qui ressemblent pas du tout à le morceau au départ. Mais je suis très, très heureuse aussi d'avoir ce résultat aussi et qui me donne encore envie d'écrire.
Et vous avez depuis écrit d'autres chansons?
Malheureusement, non. pas. En attendant, j'ai préparé un autre album qui est uniquement avec des cover songs, avec des reprises.
Oui, un album qui sortira le 26 janvier, date de votre concert à Aix-en-Provence. Un album qui s'intitule oui. Elle, en français, au pluriel. C'est un hommage aux femmes, un hommage à ces femmes qui ont écrit ou interprété des chansons, à des femmes que vous admirez.
Oui, c'est des chanteuses qui m'ont inspirée, qui m'ont poussée et appris à continuer à faire ce chemin. Et en fait, je pense que elles, pour moi, c'est des chanteuses, mais aussi des chansons qui ont interprété, qui m'ont touchée, et aussi leur voix.
Alors, parmi ces chansons, il y a Feeling Good, que l'on peut déjà découvrir sur Internet, une chanson de Nina Simone. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Nina Simone?
Elle, pour moi, c'est pas un être humain, en fait. C'est une ovni. Après, elle est souvent décrite comme une chamane musicale. Tout ce qu'elle chante, ça devient intemporel. Donc, j'ai beaucoup de respect pour elle. Sa voix est remplie d'âme et en fait c'est chargé d'émotions. En fait, c'est quelque chose dont j'ai envie de l'apprendre et je suis toujours émue par sa beauté de la voix. Oui.
Et on sent votre émotion lorsque vous interprétez cette chanson. Merci beaucoup, Yoon Sun-na. Donc, cet album, Elle, sortira le 26 janvier. Ce soir-là, vous serez au Grand Théâtre de Provence pour donner votre précédent album, vos chansons originales, pour entamer cette tournée qui s'achèvera le 26 février à La Cigale. Et à La Cigale, vous donnerez le programme de votre nouvel album.
Oui, ce sera avec le pianiste qui s'appelle Boyan Z. On sera en duo.
Merci beaucoup et bonne chance pour cette tournée.
Merci beaucoup de m'avoir invité. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Feeling Good, chanson de Nina Simone, reprise ici par Yoon Sun-na, un extrait de son nouvel album Elle, qui sortira vendredi. Yoon Sun-na en concert, en tournée à partir de vendredi à Aix, tournée qui passera ensuite par Grenoble, Tulle, Rouen, Colombes et d'autres villes françaises et allemandes pour s'achever le 26 février à Paris, à La Cigale.
L'Or Maison sur Radio Classique.
La première œuvre pour piano de Beethoven est un cycle de variations. Il avait 12 ans, écrit Cédric Tiberghien dans la préface du deuxième volume de son intégrale des variations de Beethoven, qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Un magnifique double album mettant en regard, comme le premier volume, des variations de Beethoven et de compositeurs d'autres époques, de Bach jusqu'à George Crumb. Cédric Tiberghien est à cette occasion notre invité ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Beethoven a débuté sa carrière de compositeur avec des variations, mais vous avez commencé votre carrière discographique avec des variations de Beethoven, avec les variations Eroica. Vous partagez avec Beethoven depuis toujours un amour, une passion pour ce genre de la variation?
Oui, c'est vrai que ça, c'est un projet, on va dire, au long cours, qui a débuté même encore avant, puisque j'avais appris les variations Eroica pour mon prix au Conservatoire de Paris. Donc ça remonte en 1992, donc ça fait déjà, c'était le siècle dernier. Oui, j'ai toujours été fasciné par ses œuvres. Alors bien sûr, il y avait les variations dans la symphonie Eroica, mais il y avait les variations dans la 9e symphonie. Disons que ce travail que Beethoven fait sur le matériau, ça m'a toujours vraiment fasciné. Et puis, au fil des années, j'ai passé beaucoup de temps à jouer toutes ces sonates pour piano, les sonates pour violon et piano avec Alina Ibrahimova, les sonates pour violoncelle et piano avec différents partenaires. J'ai vraiment jouer les concertos. J'ai passé beaucoup de temps avec ce compositeur et finalement, c'est ce qui reste le plus, c'est cette extraordinaire capacité qu'il a de travailler le matériau, de dire, de nous montrer d'une certaine façon presque comment il travaille, ouais, de nous donner des recettes et de, alors évidemment, c'est avec une maîtrise, une maestria absolument extraordinaire, mais je trouve ça vraiment, vraiment passionnant.
Et puis, il y a cet art de la variation qui fait penser chez Beethoven à l'improvisation, à une certaine liberté. On sait que Beethoven était un grand virtuose du piano, un grand improvisateur. On perçoit cela aussi quand on joue ces variations, Cédric Tiberghien, comme une espèce d'élan qui viendrait de l'improvisation.
Oui, absolument. Bah, c'est vrai que lui, quand il était jeune, il était même plus connu comme pianiste que comme compositeur. Il était invité dans les cours pour montrer son savoir, sa virtuosité extraordinaire. Et c'est vrai qu'il demandait à l'assemblée, donnez-moi un thème et je vais improviser. Et c'est un improvisateur extraordinaire. On le ressent dans cette imagination quasiment inépuisable, une fertilité d'imagination fantastique où avec des thèmes qui sont souvent pas très, très intéressants, on a l'impression qu'il pourrait écrire 200 variations et ça continuerait à être différent et nouveau et sont des idées. Donc il y a cette idée un petit peu d'éclosion de l'imagination qui est passionnante.
Alors dans cet album, Cédric Tiberghien, vous avez enregistré plusieurs cycles de variations de Beethoven, pas forcément parmi les plus célèbres, que vous avez donc mis en regard avec des variations d'autres compositeurs et notamment Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
quelques-unes des variations de Jean-Sébastien Bach sur un aria varié à la manière italienne, sous les doigts de Cédric Tiberghien. Un extrait de ce double album dédié à l'art de la variation, associant Beethoven donc à d'autres compositeurs. Un album que l'on évoque ce soir sur Radio Classique avec Cédric Tiberghien. Alors, ces variations de Bach ne sont pas parmi les plus connues du compositeur. Quand on dit Bach et variation, on pense au Goldberg. Mais elles sont ces variations que vous avez sélectionnées d'une délicatesse, d'une poésie absolument irrésistible.
Oui, c'est un cycle que j'ai découvert grâce à Émile Gilels, qui est un de mes modèles. Alors, modèle, je ne sais pas, mais une inspiration constante. Et voilà, il y a un récital. J'étais tombé sur une vidéo où on le voit jouer ses variations avec une sorte de perfection esthétique, de simplicité qui m'avait complètement bouleversé. Et je m'étais toujours dit, un jour, j'aimerais jouer ça. Et voilà, dans le cadre de cette idée de mettre les variations en regard les unes avec les autres, ça collait parfaitement. Pour ce disque en particulier, donc c'est le premier disque du coffret, c'était l'idée un petit peu de voir quelles avaient pu être éventuellement les influences ou les inspirations que Beethoven avait quand il a composé. Et c'est vrai qu'on se tourne vers le passé, forcément la figure de Bach est présente. Alors il y a bien sûr les variations de Goldberg, mais ces variations montrent aussi vraiment voilà le comment est-ce qu'on peut varier. On peut varier le rythme, on peut varier l'harmonie, on peut varier les figurations, on peut varier le caractère, on peut varier la tonalité. Enfin, il y a tellement d'éléments qu'on peut changer tout en restant avec le même objet. C'est vraiment passionnant. C'est toujours la même idée de prendre un objet et d'apporter une quantité infinie de regards sur le même objet. Et plus on le regarde sous des angles différents, et plus l'objet s'enrichit. Donc finalement, ces thèmes qui sont relativement simples, encore que celui de Bach est déjà très très évolué, quand on termine l'œuvre, on a l'impression d'avoir enrichi l'œuvre en la jouant, et c'est j'adore ça.
Mais est-ce que justement ces techniques de variation entre l'époque de Bach et celle de Beethoven, elles sont très différentes? À l'époque de Bach, c'est le contrepoint, c'est l'ornementation. Beethoven, il va apporter à la variation encore d'autres effets.
Oui, oui, absolument. Ça, on sent beaucoup l'évolution au cours de sa vie aussi. Les premières variations sont des variations de pure virtuosité où finalement il n'y a pas beaucoup d'audace, et petit à petit on sent qu'il va casser vraiment les barrières et explorer finalement la variation comme outil de liberté. D'une certaine façon, c'est un peu la liberté dans la contrainte. Il se donne une contrainte, on a ce thème, et grâce à cette contrainte, il va pouvoir créer d'une façon beaucoup plus libre. Et ça, on le sent bien sûr dans les Eroica, les variations en fa majeur, et ce sera bien sûr extraordinaire dans les variations de Diabelli, où vraiment dans un geste iconoclaste, dès la première variation, il détruit le thème pour dire maintenant, c'est mon terrain de jeu à moi. Et voilà.
Alors, vous évoquiez, Cédric Tiberghien, l'importance de Bach chez Beethoven, qui s'est nourri de la musique de Bach, qui est d'autant plus flagrante que vous avez enregistré ici les 32 variations en ut mineur sur un thème original. 32 variations qui sont basées sur une basse de chaconne, ce qui fait référence à Bach. Et d'ailleurs, vous avez enregistré également la célèbre chaconne en ré mineur dans l'arrangement de Brahms, en clin d'œil à ce cycle de variations.
Voilà, j'accorde évidemment toujours beaucoup d'importance à construire les programmes. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'effectivement, commencer par cette chaconne de Beethoven, finalement, oui, qui est variée, et terminer par la chaconne de Bach pour violon, qui est également variée, ça permet de mettre en regard, voilà, leur façon de travailler, qui finalement est relativement similaire. On se retrouve avec un épisode majeur au milieu, puis on revient en mineur. Les figurations sont des figurations qui sont relativement techniques, encore une fois, et virtuoses, où là, on est plus dans un travail d'artisan. Il y a peut-être un tout petit peu moins d'imagination, même si finalement ces 32 variations de Beethoven, moi je les adore. Et puis cette forme d'arche, un peu, on part en do mineur, do majeur, do mineur, il y a quand même le sentiment de quelque chose qu'on complète. Ça dure seulement 10, 15 minutes, je sais plus, et c'est quand on termine, on a quand même l'impression d'avoir vécu quelque chose d'important.
Et ces 32 variations, comme d'autres cycles de variations que vous avez enregistrés, elles n'ont pas de numéro d'opus. Qu'est-ce qui explique cette absence au catalogue d'opus?
Honnêtement, je pense que Beethoven lui-même considérait un petit peu ces œuvres-là comme du travail de laboratoire. Il y avait vraiment le travail d'expérimentation. Il utilisait ces pièces-là pour un peu développer ses outils techniques, affûter ses outils de composition. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre assez longtemps. Et l'opus 34, donc ce sont les variations en fa majeur, puis 35 pour les Eroica, attendre vraiment ces grandes œuvres pour qu'il mette des numéros d'opus. Mais il y en a énormément. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine de cycles qui sont effectivement, on pourrait dire, c'est-à-dire des exercices ou des études, mais qui sont remplis de musique, de magnifiques idées, et dans lequel Beethoven est entièrement présent.
Quelques-unes des variations sur un thème original en ut mineur de Beethoven par Cédric Tiberghien, un nouvel extrait de ce double album que vous venez de nous offrir. Cédric Tiberghien, c'est le deuxième volume de votre intégrale des variations de Beethoven. Il y aura 3 volumes.
Voilà, exactement. Il y aura un 3e coffret de 2 disques sur lequel il y aura, bien sûr, pour terminer les variations Diabelli, il y aura encore d'autres cycles de Beethoven et de la musique de Ligeti également.
Alors ici, dans cet album, il y a des cycles un peu moins connu, notamment des cycles de jeunesse. Vous avez enregistré son tout premier cycle de variations qu'il a composé à 12 ans.
Voilà, donc dans ce volume 2, il y a les variations sur une marche de Dressler qui, alors la marche déjà n'est pas extrêmement intéressante et il la traite d'une façon certes enfantine, un petit peu maladroite, mais il y a déjà des idées qui préfigure des choses. Il y a une variation qui préfigure un peu le final de la sonate au clair de lune avec ses arpèges un petit peu virtuoses. On voit vraiment la virtuosité tellement facile de cet enfant-là qui joue. On imagine un petit peu essayant d'impressionner son auditoire et ça marche vraiment très très bien.
C'est vrai. Et puis il y a 2 séries de variations sur des thèmes anglais. Et il avait une fascination pour l'Angleterre avec notamment le rôle Britannia.
Ben exactement. Bon, en fait, je crois que c'était des thèmes qui étaient vraiment très connus à l'époque et il y avait forcément un petit clin d'œil, mais voilà, l'idée c'est on va prendre un thème que tout le monde connaît, qu'on peut éventuellement siffler dans la rue, et puis à partir de là on montre un petit peu ce que c'est faire.
Et puis il y a, comme pour le précédent album, des compositeurs du XXe siècle, Morton Feldman, John Cage et George Crumb. Comment transcende-t-il cet art de la variation au XXe siècle, ces compositeurs?
Alors bien sûr, aucune de ces pièces n'est appelée véritablement variation, mais l'idée c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur le matériau de façon alors soit un petit peu répétitive. Alors par exemple, la grande pièce de Crumb, qui est une pièce majeure du piano du du XXe siècle. Il y a vraiment un accord qui est répété même des centaines de fois, mais à chaque fois avec des textures un petit peu différentes, un encadrement différent, une atmosphère différente. Et donc, d'une certaine façon, il apporte, de la même façon que Beethoven apportait des regards différents, on a l'impression que cet accord se renouvelle et évolue, et quand la pièce se termine, on a vraiment l'impression d'être passé dans le monde d'un accord répété. Et l'idée, c'est d'essayer de dépasser un petit peu l'idée de la variation et de voir un petit peu ce qu'un compositeur, comment un compositeur peut se renouveler. Alors, chez Feldman et Cage, il y a bien sûr le côté très aléatoire où il faisait confiance un petit peu au hasard, et on peut tout à fait imaginer que chaque note pourrait être une sorte de variation de la précédente, ou quelquefois où on a des pièces tellement minimalistes où que chaque note pourrait être une variation du silence. Où il y a évidemment, c'est un petit peu conceptuel, mais ce sont des compositeurs qui étaient conceptuels, et d'une certaine façon, leur façon de travailler le matériau rejoint ce que Beethoven faisait.
Voilà, donc ce deuxième volume de votre intégrale des variations de Beethoven et d'autres compositeurs vient de paraître chez Harmonia Mundi, Cédric Tiberghien. Quelques rendez-vous sur scène, alors vous jouez beaucoup à l'étranger, on pourra vous applaudir en Belgique, en Allemagne, vous jouerez notamment également aux États-Unis, toute une série de concerts à San Francisco et Atlanta cette année, et heureusement quelques rendez-vous en France. Le prochain, ce sera le 2 février à Compiègne pour un récital, vous jouerez Beethoven entre autres.
Beethoven avec les variations de Diabelli, voilà exactement, qui sont déjà à mon répertoire.
18 février à Castres avec Xavier Philips, donc de la musique française et notamment, j'imagine, du Forêt, puisque vous avez enregistré cette magnifique intégrale de l'œuvre pour violoncelle et piano de Forêt.
Exactement, c'est un autre compositeur qui est très cher à mon cœur, et à chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir partager cette passion avec le public, on essaie de le faire. C'est un compositeur qui mérite d'être encore écouté, redécouvert et apprécié.
Heureusement, en 2024, on va l'écouter encore plus, Forêt.
Absolument.
Autre rendez-vous en France, 21 et 22 mars à Lyon avec l'Orchestre National de Lyon. Quel concerto ?
Et concerto de Ravel, concerto en sol. Disons que c'est forcément un des grands concertos du répertoire français. J'ai eu la chance de l'enregistrer avec François-Xavier Roth et les Siècles. Et voilà, ça reste
sur un instrument d'époque d'ailleurs.
Oui, c'était sur un pléial absolument magnifique. Là, ce sera sur un instrument moderne, mais j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir partager ce sublime concerto avec le public lyonnais.
Voilà, donc ce sera les 21 et 22 mars. On pourra également vous applaudir un peu plus tard au mois d'avril à Caen. Et puis, il y a l'Académie Jarouski. Vous avez entamé votre deuxième année de professeur au sein de l'Académie.
Oui, c'est une expérience passionnante qui permet de partager avec la jeune génération, de leur apporter quelques conseils, du soutien et surtout de les encourager, de les pousser à faire toujours plus de répertoire, plus d'expérience, plus de découvertes et oser. Voilà, il y a des étudiants absolument passionnants, magnifiques musiciens et qui font aussi beaucoup de musique de chambre avec les autres disciplines, qui sont avec Anne Gastine au violoncelle, Nemanja Radulovic au violon, Philippe Jarouski. Ça fait vraiment des combinaisons tout à fait passionnantes et c'est un renouvellement permanent.
Et votre prochain rendez-vous avec ces élèves, ce sera...
Alors moi, je les verrai au mois d'avril.
Parce que c'est par session.
Par session, exactement. Donc là, ils doivent me préparer un petit peu de Bartok.
Voilà. Et on va se quitter, Cédric Tiberghien, avec quelques notes de Forêt. Un extrait de cette magnifique intégrale de l'œuvre pour violoncelle et piano de Forêt, sortie tout récemment chez la Dolce Volta. C'était votre première collaboration avec Xavier Philips. C'est un duo qui est amené à se poursuivre. En tout cas, ça fonctionne merveilleusement bien en concert. On a pu vous entendre notamment au Théâtre des Bouffes du Nord il y a peu.
Mais disons que on s'entend vraiment très très bien sur le plan humain, sur le plan musical aussi. Il y a énormément de choses qui nous rapprochent. Donc effectivement, on a d'autres projets. Et pour l'instant, on a déjà le plaisir de continuer à jouer cet album que nous avons enregistré pour la Dolce Volta.
Voilà, notamment le 18 février à Castres. Merci beaucoup, Cédric Tiberghien.
Merci beaucoup. Thank you.
Après un rêve de forêt par le violoncelliste Xavier Philips et le pianiste Cédric Tiberghien. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de l'accordéoniste Richard Galliano. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.